contretemps. Une émission de Canal Academy, Priscille Lafitte et ses invités.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce Temps contre-temps. Nous avons pour invité cette semaine le physicien et philosophe Bernard d'Espagna. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Bernard d'Espagna. On dit physicien et philosophe ou philosophe et physicien?
Je crois que c'est plus exact de dire physicien et philosophe.
Donc on verra votre parcours effectivement
voilà.
Tout petit peu plus tard. Je vais d'abord vous présenter les deux étudiantes qui sont à nos côtés. Alexis, bienvenue, et Adrien Barton. Donc bonjour Alexis.
Bonjour.
Pour vous présenter succinctement, vous êtes normalien, agrégé en philosophie, et vous avez entrepris une thèse sur quoi exactement ?
Sur le concept de probabilité chez Hans Reifenbach, qui est un philosophe allemand du début du XXe siècle.
On va vous présenter aussi vous, Adrien. Vous êtes également normalien, agrégé en mathématiques. Et vous, votre thèse est sur ?
Alors, elle concerne une interprétation de la mécanique quantique qui s'appelle l'interprétation d'Everett. Et je m'intéresse tout particulièrement au problème des probabilités, moi aussi, dans cette interprétation.
Alors, on va essayer d'y comprendre un petit peu plus. D'abord, on vous présente vous, Bernard d'Espagna. Nous avons donc dit que vous étiez physicien et philosophe. Vous avez étudié la physique à Polytechnique. Vous avez travaillé après à l'Institut Niels Bohr à Copenhague. Entre autres, vous êtes devenu le premier physicien théoricien en poste au CERN à Genève. C'est en 1954. Vous êtes entré élu à l'Académie en 1996 dans la section philosophie. Et notons un de vos derniers ouvrages, le traité de physique et de philosophie, qui est sorti en 2002 chez Fayard et que vous êtes en train de traduire en anglais, à destination d'un public en Grande-Bretagne, aux États-Unis.
Oui, bien sûr, de par le monde, disons.
Toute première question, on aimerait bien comprendre exactement à quel moment vous êtes intéressé à la philosophie, monsieur d'Espagna.
Très tôt. Je crois que c'est en classe de seconde que j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai découvert qu'il y avait des problèmes et que c'était intéressant de creuser un peu ces problèmes. Mais c'est resté dans mon esprit un peu à l'état virtuel, si vous voulez. C'est-à-dire, je faisais deux parts, au fond, de mon activité. D'une part, mes travaux scolaires, disons, qui étaient plutôt orientés vers la science, et d'autre part, ma curiosité philosophique, qui consistait à lire des livres, droite et à gauche, mais sans faire un lien vraiment avec l'activité du lycée. Je dois dire quand même que parmi ces livres, il y en a un que j'ai lu à cette époque à peu près, enfin quand j'avais 17-18 ans, et qui m'a orienté, je crois, pour toute ma vie, c'est le livre « Matière et lumière » de Louis de Broglie. Je ne l'ai pas relu depuis, je ne sais pas ce que j'en penserais si je le relisais, mais c'est un fait qu'il m'a vraiment orienté vers la physique quantique, et donc vers la physique, et en même temps vers les problèmes philosophiques qui se posent, parce qu'il est incontestable, et maintenant tout à fait incontesté, que la mécanique quantique pose de grands problèmes philosophiques.
Donc, très jeune, dès le début, vous avez posé le lien entre les deux.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Est-ce qu'il y a d'autres philosophes français qui ont compté pour vous à cette époque particulièrement ?
Oui, Bergson, un peu. C'est peut-être en lisant Bergson que j'ai eu mes premières idées que c'était intéressant, parce que c'est très bien écrit.
Quoi en particulier ?
Les autres philosophes, en général, écrivent mal. Par conséquent, m'intéressait moins.
Il y a un ouvrage en particulier de Bergson qui a fait œuvre de déclic.
Oui, les deux sources de la morale et de la religion et l'évolution créatrice. Surtout ces deux-là.
Mais ça ne portait pas sur la physique particulièrement. Vous aviez des intérêts beaucoup plus généraux.
Oui, ah oui, oui, oui. Pour moi, la physique a toujours été un moyen de chercher de comprendre un peu mieux les problèmes philosophiques, justement.
Mmh, d'accord.
Est-ce que dès cet âge-là, il y avait une question en particulier qui vous taraudait ?
Non, c'est trop... On ne peut pas dire qu'il y avait une question précise. Non, je voulais y voir plus clair. Il y avait peut-être déjà la question du matérialisme, oui, parce que il y avait à l'époque une grande tendance vers le matérialisme et ce que j'avais vu dans Bergson me paraissait contraire à ça et par conséquent j'avais envie d'éclaircir la question. Mais je me suis dit que pour éclaircir la question, il valait mieux ne pas trop essayer de lire des philosophes, qu'il valait mieux, puisque le matérialisme, ça concerne la matière, il valait mieux étudier la matière, donc la physique, puisque la physique est la science de la matière.
Est-ce que vous avez lu, par exemple, Bachelard sur le matérialisme à l'époque, parce que ça devait être l'époque où il était le plus productif ?
Non, j'ai lu Bachelard plus tard, et encore, je n'ai pas lu beaucoup de Bachelard, mais j'ai lu certains livres de Bachelard. Mais plus tard, nettement plus tard. Ça m'a intéressé. Mais je n'en fais pas une idole, si vous voulez, du tout. Parmi les philosophes qui m'ont apporté quelque chose, c'est plutôt des philosophes américains que Bachelard.
Comme qui, par exemple ?
Putnam, par exemple. Mm-hmm. Van Brassen aussi.
Mais ceux-là, vous les avez lus plus tard. C'était...
Bien sûr,
ils
ne
faisaient pas partie,
bien
disons,
sûr.
De votre formation au départ.
Ah non, non, ça ne faisait pas partie de ma formation, non. Non, dans ma formation, elle n'a pas été très poussée en philosophie, vous voyez. Mm-hmm. C'était des questions qui tournaient dans ma tête, mais je n'avais pas le temps de me consacrer à ça.
Puis c'était en autodidacte, si j'ai bien compris.
Pardon ?
Votre intérêt pour la philosophie et votre formation en philosophie s'est fait en autodidacte
Oui, c'est ça, en autodidacte, exactement. Oui. Oui. Et d'ailleurs, l'autodidactisme, si j'ose dire, a continué plus tard parce que, Alix, on ne parlait, à l'école polytechnique, on ne parlait presque pas de mécanique quantique. Et. À la Sorbonne, quand je suis sorti de l'X et puis entré au CNRS, et que je suis entré dans l'équipe de Louis de Broglie pour faire de la physique théorique, eh bien, il n'y avait pas de cours de mécanique quantique. Il y en avait à l'étranger, mais il n'y en avait pas en France.
C'était à quelle date, ça, à peu près ?
C'était dans les fin des années 40.
Ah oui.
Et il y en avait quand même un, qui était fait par Louis de Broglie lui-même, mais qui ne durait que 6 mois, et qui portait sur le microscope électronique, ce qui est vraiment une manière tout à fait par la bande d'aborder la question des fondements de la mécanique quantique. Vous voyez, mon travail d'autodidacte a dû continuer, même à cette époque-là.
Vous êtes parti aussi à Chicago.
Oui, c'est ça. Alors, je suis parti à Chicago, et là, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé dans le laboratoire de Enrico Fermi, qui est un grand physicien théoricien de ces années-là, celui qui a créé l'énergie atomique. Il a construit la première pile atomique sous les gradins du stade de Chicago. Je suis arrivé là quelques années plus tard et j'ai beaucoup profité de l'enseignement de Fermi, mais je n'étais pas au niveau, si vous voulez. Je n'étais pas au niveau pour en profiter autant que j'aurais dû si j'avais été mieux formé. Il y a eu à l'époque un grand retard dans la formation des scientifiques.
Parce qu'aux États-Unis, la physique quantique était déjà enseignée depuis longtemps par Feynman, etc.
Oui, en Angleterre aussi. Oui.
Et d'où vient alors ce retard français sur...
Oh, il y a eu des études faites là-dessus, je ne suis pas particulièrement compétent pour vous dire. C'est vrai que la guerre avait provoqué un grand retard. La France a été coupée du reste du monde, enfin du reste du monde scientifique, si vous voulez. Et en plus, de grands physiciens théoriciens, enfin des physiciens théoriciens en tout cas très prometteurs, ont été, ils étaient juifs, certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Donc, enfin, c'est une des raisons en tout cas. En tout cas, le fait est là. Il y avait un très net retard que nous avons comblé. Ma génération, si vous voulez, a petit à petit rattrapé la chose.
Oui, on rappelle aussi que vous avez été professeur à l'université. Adrien ?
Oui, j'aurais aimé savoir, pour préciser un petit peu votre itinéraire philosophique, dans vos ouvrages récents, vous vous situez fréquemment par rapport à Kant. À partir de quel moment vous êtes-vous intéressé à Kant et pour quelles raisons ?
Oui, je vais vous dire. La question, en fait, est plus générale. Parce qu'elle touche non pas seulement Kant, mais en général, mon attitude vis-à-vis des philosophes. En Kant en particulier. Pour moi, les philosophes du passé, bien que très intéressants pour certaines raisons que vous pouvez dire, n'apportent pas quand même la clé parce que ils savaient beaucoup moins de choses que nous n'en savons. Mm-hmm. Pensez par exemple qu'ils ignoraient l'évolution. C'est quand même énorme, n'est-ce pas ? L'évolution des espèces, mais l'évolution de l'univers. On ne connaît l'évolution de l'univers que depuis les années 1920, 30, 40. Donc, tous ces gens-là, Descartes, Kant, Spinoza, tous ces gens-là, ils n'avaient pas cette connaissance-là. N'est-ce pas ? Donc, je ne cherche pas chez eux un enseignement, à proprement parler. Parce que je sais que ça, de toute façon, ça va être dépassé. Mais je constate que la physique, en particulier la physique quantique, pose des problèmes philosophiques. Bon, tous les physiciens le reconnaissent. Feynman a écrit que la physique quantique a vraiment quelque chose de mystérieux, etc. Bon, c'est reconnu. Alors, je me dis que quand on tombe comme ça sur un problème philosophique suscité par la physique contemporaine, à ce moment-là, peut-être que chez d'anciens philosophes, on trouvera une idée. Parce que ces gens avaient des idées, n'est-ce pas ? Et des idées audacieuses. La révolution copernicienne, par exemple, c'est une idée audacieuse. Je me dis que c'est à ce moment-là qu'on va regarder si ces gens-là ne pourraient pas vous suggérer quelque chose. Et pour répondre à votre question, c'est ça qui s'est passé pour moi en ce qui concerne Kant, n'est-ce pas ? J'ai constaté que, effectivement, si on essayait de dire que la physique décrit la réalité indépendante de nous, la réalité telle qu'elle est, ce qui est la ou qui a été très longtemps, jusqu'à ces toutes dernières années, espèce de vulgate, si vous voulez, chez les scientifiques, on tombe sur des problèmes inextricables. Alors, je me suis rappelé à ce moment-là que j'avais lu quelque part que Kant avait proposé l'idée inverse, à savoir que la science en général, la physique en particulier, ne décrit pas une réalité indépendante de nous, mais décrit les phénomènes, c'est-à-dire la manière dont l'esprit humain, tel qu'il est construit, conçu, etc., se représente la réalité. Alors, là, j'ai pris ça. Vous voyez ?
Vous l'avez trouvé chez d'autres auteurs, ça ? Avant d'arriver à Kant, ou vous êtes arrivé directement à cette lecture-là de Kant ?
Écoutez, on peut trouver une idée similaire chez Platon, par exemple. Le mythe de la caverne, c'est bien ça. Hein. Les prisonniers que nous sommes, quand ils regardent le mur de la caverne, ils voient des ombres, mais ils ne voient pas les objets réels. Les objets réels, ils sont derrière et ils ne sont pas accessibles aux prisonniers parce qu'ils ne peuvent pas se retourner. Et donc, il y a là comme une espèce de préfiguration de cette thèse kantienne. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Mais enfin, c'est quand même Kant qui l'a dit le plus nettement.
Nous marquons une pause, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce temps contre temps. Canal Académie.
nous retrouvons Priscille Lafitte.
Nous sommes en compagnie donc de Bernard d'Espagna, physicien et philosophe. Alexis, bienvenue, et Adrien Barton. Nous nous intéressons évidemment à la philosophie des sciences, et en compagnie de Bernard d'Espagna, on ne peut ne pas s'intéresser à ce qui s'est dit pendant les 60 dernières années, savoir comment vous avez parcouru ces années-là. C'est Alexis ou Adrien qui veut poser la prochaine question.
Oui, je voudrais bien savoir un petit peu plus en détail si vous avez eu des interactions philosophiques avec Niels Bohr, chez lequel vous avez travaillé à Copenhague. Est-ce qu'il vous a apporté des lumières sur vos questions?
Hélas, non. Ah. Niels Bohr était adorable, gentil comme tout, et il avait une communication avec ses jeunes élèves qui était remarquable. Seulement, malheureusement, à l'époque, il était très préoccupé, on le comprend, par le problème de la prolifération nucléaire.
C'était à quelle époque, si vous pouvez le rappeler?
C'était début des années 50. Donc, pour lui, l'événement qu'avait représenté Hiroshima, Nagasaki, était encore naturellement très présent. Et il avait écrit avec Wheeler un article scientifique intitulé « La goutte liquide » qui donnait les premières idées de la manière dont on pourrait éventuellement extraire de l'énergie de l'atome, n'est-ce pas? Donc il se sentait une espèce, probablement, il ne m'a pas dit, mais enfin, il se sentait probablement une responsabilité particulière dans cette affaire. Et donc ça le préoccupait énormément. Donc il s'occupait de ça, et on ne le voyait plus guère dans les séminaires de physique.
Et philosophiquement non plus.
Et philosophiquement, j'étais trop jeune à l'époque.
Vous avez quel âge?
J'étais trop. Non, c'est pas une question d'âge, mais j'étais trop jeune au point de vue formation. J'avais pas lu suffisamment de choses. Je n'en ai pas profité. J'aurais pu, évidemment, si j'avais su davantage de choses, je serais allé le trouver dans son bureau et je lui aurais posé les questions fondamentales. Mais je n'ai pas fait. D'ailleurs, il faut dire qu'il était assez difficile à comprendre. C'est bien connu.
C'est connu.
Les écrits de Bohr sont difficiles à comprendre et dans son langage, c'est pareil. Il était difficile à comprendre.
Avec les autres grands physiciens de l'époque, comme Heisenberg par exemple, est-ce que vous avez eu des relations?
Oui, alors Heisenberg, je l'ai rencontré deux ou trois fois. Je lui ai parlé de quelques petites théories. L'idée de modèle physique que j'avais, il a répondu très gentiment et il m'a donné des conseils utiles. Mais nous n'avons pas non plus parlé de philosophie, vous voyez, de philosophie des sciences. Il aurait fallu des entretiens plus approfondis. Je n'ai pas eu l'occasion de les avoir. Louis de Broglie non plus. Louis de Broglie était très réservé. Et donc, on n'osait pas trop. Il était intimidé, et par conséquent, il était intimidant.
Donc, en fait, il n'y a aucun grand philosophe physicien de cette époque que vous avez vraiment suivi dans son parcours philosophique?
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mon parcours a été et a continué à être solitaire. Seulement, il s'est quand même passé un grand déclic dans mon esprit. C'était dans les années 60, j'étais au CERN et j'étais dans le groupe de physique théorique et il y avait naturellement un certain nombre de physiciens théoriciens dans ce groupe et on faisait de la physique comme il fallait en faire au CERN, c'était des théories vérifiables expérimentalement et que les expérimentateurs se chargeaient de vérifier au moyen de leurs gros accélérateurs. Parmi ses collègues, il y en avait un qui était très bon dans ce domaine-là. Il discutait avec les expérimentateurs, il était tout à fait bien. Et il s'appelait John Bell. J'ai découvert, un peu par hasard, qu'à côté de cette activité qu'il avait, que nous avions, si vous voulez, il en avait une autre secrète qui consistait à s'interroger sur les fondements de la mécanique quantique et sur la manière dont on pourrait la rendre réaliste, parce que lui, il était réaliste, il était einsteinien, c'est-à-dire qu'il croyait vraiment
que la physique avait pour vocation de décrire la réalité telle qu'elle est vraiment, et pas seulement des apparences. Il n'était pas kantien du tout. Donc, nous n'étions pas du même bord, si vous voulez.
Parce que vous aviez déjà une option.
Oui, j'avais déjà une option. Mais lui, c'était une espèce d'acte de foi, vous voyez. Seulement, ce que j'admirais tout de suite chez lui, c'est justement sa lucidité. Parce que la plupart de mes collègues à l'époque ne se rendaient même pas compte. Ils étaient tous réalistes. Mais ils ne se rendaient pas compte que la physique qu'ils maniaient n'était pas réaliste.
Mmh. Et est-ce qu'on peut
comme
rappeler,
Bell l'a dit lui-même, ils croient que Bohr a tout résolu, dans leur sens naturellement. Et que s'ils avaient 20 minutes à consacrer à la question, ils trouveraient comment Bohr l'a résolu. Dans un sens réaliste. Seulement, ils n'ont pas les 20 minutes parce qu'ils sont occupés à d'autres choses. Et donc, ils restent dans cette illusion. Bell, lui, n'avait pas cette illusion, ça, et moi non plus. Donc, on s'est trouvé tout de suite sur la même longueur d'onde à cet égard-là.
C'est-à-dire que dans les années 60.
C'est juste le moment où il a découvert le théorème de Bell.
Dans les années 66.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire, dans les années 60, on ne se posait pas toutes ces questions-là.
Absolument pas. Absolument pas.
Adrien.
On faisait ça en secret.
Après le travail. Quoi.
Après le travail, oui, c'est ça. Oui, hein? Oui.
Et est-ce que c'est suite à cette rencontre de Bell que vous vous êtes intéressé à tous les développements expérimentaux qui allaient se mettre en place, et en particulier l'expérience d'aspect.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et est-ce que alors cette expérience d'aspect, elle a changé quelque chose dans votre façon de penser,
dans votre philosophie? Elle a changé quelque chose dans la façon de penser de John Bell lui-même, parce que John Bell pensait quand il a fait son théorème. Il a tout de suite pensé qu'il fallait faire des vérifications expérimentales, naturellement, mais a priori, il pensait que ça confirmerait ses propres idées réalistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il pensait qu'on allait découvrir pour la première fois que la mécanique quantique faisait des prédictions fausses, puisque ses prédictions étaient incompatibles avec le réalisme et que lui, il croyait au réalisme.
Et ça, donc, c'était une opinion partagée par d'autres physiciens à l'époque?
Oui et non, parce que vous dites, la plupart des physiciens ne s'intéressaient pas à cette question. Et le mérite de John Bell, ce qui montrait qu'il était vraiment un scientifique, c'est qu'il a parfaitement accepté le résultat de l'expérience, n'est-ce pas?
Est-ce que vous pouvez me rappeler
intuition réaliste.
Est-ce que vous pouvez me rappeler
pour nos auditeurs,
ce que c'était cette expérience d'aspect?
Remettons les choses à plat pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez remettre à plat l'expérience d'aspect, nous expliquer ce que c'est?
Ce qu'elle devait tester et ce qu'elle a donné comme résultat.
Oui, en gros, le théorème de Bell montrait qu'aucune théorie réaliste locale n'est compatible avec certaines prédictions expérimentales de la mécanique quantique. Théorie réaliste locale, j'explique ces deux termes. Théorie réaliste, ça veut dire une théorie qu'on peut interpréter comme décrivant la réalité telle qu'elle est vraiment. Et pas seulement une représentation à Lacan de la réalité telle qu'elle est vraiment. Et locale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction immédiate ou très rapide à longue distance. Autrement dit que, conformément au grand principe de la relativité restreinte, aucune influence ne se propage plus vite que la lumière. Alors, la grande puissance du théorème de Bell, c'est qu'il montre qu'aucune théorie ne peut exister qui soit à la fois réaliste et locale et qui soit compatible avec les prédictions de la mécanique quantique. Alors il fallait tester ces prédictions, naturellement. Ça paraissait évident. Mais en fait, ce n'était pas tellement évident dans l'esprit des physiciens. Parce que, justement, les physiciens en général pensaient que la mécanique quantique était une recette qui marche admirablement, et c'est vrai, et en même temps, ils ne réalisaient pas qu'il y avait cette discrépance entre les prédictions de la mécanique quantique et le réalisme. Donc, il disait, du moment que les prédictions de la mécanique quantique sont telles et telles, vous allez faire l'expérience, vous allez trouver qu'elles sont effectivement ça, et qu'est-ce que vous aurez trouvé? Vous aurez perdu votre temps. parce qu'il ne voyait pas l'aspect philosophique du problème. Et on a dû beaucoup insister. Moi, j'ai fait de mon mieux. J'ai un peu contribué à découvrir le personnage aspect et à l'orienter, enfin, lui a suggéré en tout cas que ses expériences étaient intéressantes. Et il a tout de suite mordu.
Et alors, le résultat
Et le résultat, ça a été que la mécanique quantique a raison, une fois de plus, et par conséquent, que toute théorie réaliste locale est fausse.
Si j'ai bien compris, Niels Bohr n'était pas forcément réaliste.
Niels Bohr n'était pas réaliste. Niels Bohr n'était pas réaliste du tout, du moins, à la fin de sa vie, il ne l'était pas. Il a évolué, naturellement. C'est une époque où on redécouvrait le monde. Et donc, c'est très normal que les physiciens de cette époque aient évolué, n'est-ce pas ? Et ils partaient tous d'une vision plus ou moins réaliste des choses. Et mais enfin, Bohr, moins que les autres. Et à la fin, il n'était plus du tout. Je pensais que vous me poseriez cette question. Alors, j'ai là une citation d'un de ses derniers articles. Il dit ceci. « La description des phénomènes atomiques est parfaitement objective, en ce sens qu'aucune référence n'y est faite à un observateur individuel, et que par conséquent, il n'y intervient aucune ambiguïté dans la communication des observations. » Donc vous voyez, c'est une définition de l'objectivité qui coupe cette définition, qui coupe l'objectivité de la notion d'une réalité indépendante de nous. Mmh. Elle se réfère à l'expérience. Donc, le résultat du théorème de Bell et de l'expérience d'aspect, ça a été finalement de donner une confirmation des vues de Bohr. Et John Bell en était un peu triste. Content, naturellement, d'avoir fait faire un pas énorme à la physique et à la philosophie en même temps, mais en même temps un peu triste parce que il était einsteinien et il regrettait que la physique, finalement, ne décrive pas la réalité en soi.
Désolé de vous interrompre. On marque une toute petite pause, une petite respiration. On se retrouve dans un tout petit instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Suite de ce temps contre temps, nous sommes donc toujours en compagnie de Bernard d'Espagna, Adrien et Alexis qui sont dans ce studio. Nous parlions un instant de l'expérience d'aspect qui a fortement marqué l'histoire de la mécanique quantique. Est-ce que cette expérience a aussi beaucoup marqué vos travaux ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, de votre pensée ?
Non, pas fondamentalement, puisque les résultats ont été conformes à ce que j'attendais. Ça aurait changé beaucoup si le résultat avait été à l'opposé. À ce moment-là, j'aurais dû dire, la mécanique quantique, c'est comme les autres théories. Toutes les théories sont comme les civilisations de Paul Valéry, elles sont mortelles. Et la mécanique quantique comme une autre, et donc, on a trouvé justement un cas où la mécanique quantique donne des prédictions erronées. Donc il faudra trouver mieux. Et bien entendu, j'aurais reconnu à ce moment-là que ceci est un argument très fort en faveur de la thèse réaliste selon laquelle la science décrit la réalité en soi telle qu'elle est indépendamment de nous. Seulement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Les expériences d'aspect ont confirmé, avec une excellente précision, les résultats de la mécanique quantique. Et depuis, des expériences similaires, avec des montages différents, ont été faites dans toutes les parties du globe où on fait de la physique, n'est-ce pas ? Et ont toujours confirmé la chose. La mécanique quantique ne se trompe jamais, même quand elle prédit des choses qui, apparemment, ont l'air complètement farfelues et complètement incroyable. Donc, ça n'a pas changé ma manière de voir les choses, et je me suis, depuis lors, surtout attaché à faire comprendre, faire saisir aux gens le point, vous voyez, parce que ça a l'air facile, mais en fait, ça n'est pas facile de faire comprendre aux gens qu'il y a là quelque chose d'essentiel, de fondamentalement important, et que il faut qu'ils en prennent conscience. C'est plus facile vis-à-vis des jeunes gens que vis-à-vis des gens, des scientifiques confirmés, parce que le scientifique confirmé, il a déjà ses idées toutes faites, et il a ses activités qui sont absorbantes, naturellement. Il y a un laboratoire à diriger, il y a des papiers à signer, etc., en plus de ses recherches. Et donc, il n'est pas porté à prendre même connaissance de ce genre de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit un certain nombre de, pas beaucoup, mais enfin quelques livres, pour tâcher d'expliquer ça et d'en tirer les conséquences.
Alors, est-ce que la conséquence fondamentale, c'est que le réel est voilé ? Est-ce que c'est bien ça le concept fondamental chez vous ?
Oui.
Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Voilà. J'ai lu, à certains endroits, des interprétations tout à fait fausses de cette expression de réel voilé. Il y a des gens qui ont cru simplement que ça voulait dire qu'un électron, ben on ne voit pas jamais exactement où il est parce que c'est un peu flou, quoi.
Mais c'est pas ça, alors.
Ce n'est pas ça.
C'est quoi?
Ça n'est pas ça. C'est un peu la thèse de Kant, en ce sens que Kant disait, comme nous le dit Rappion tout à l'heure, que le réel en soi, la réalité en soi, n'est pas connaissable par l'homme, que ce que l'homme peut en connaître, c'est simplement des phénomènes, c'est-à-dire la manière dont elle nous apparaît, compte tenu des lunettes colorées, si vous voulez, que nous avons devant les yeux, qui font que nous voyons tout en orange, bien que les choses ne soient pas elles-mêmes oranges. Et je pense que ces résultats du théorème de Bell et des expériences d'aspect confirment d'une certaine manière cette vue, puisqu'elles éliminent la vue opposée, enfin, la vue contraire. Seulement, alors, la question suivante, c'est est-ce que cette réalité indépendante est totalement inconnaissable, comme le pensait Kant, ou même est-ce que cette notion n'a pas de sens, comme le disent les néo-kantiens, ou est-ce que la notion a un sens et est quand même vaguement pas atteignable, mais devinable par certaines démarches de l'esprit humain. J'opte pour la dernière réponse. Et c'est pour ça que je parle d'un réel qui n'est que voilé, plutôt que complètement inconnaissable. C'est ça que ça veut dire, le réel voilé, n'est-ce pas ?
D'accord. Donc, il y a quand même des traits que l'on peut parvenir à discerner dans ce réel.
Bon, l'idée, c'est, si vous voulez, pour rester dans le domaine de la science, que des grandes lois générales comme les équations de Maxwell qui gouvernent l'électrodynamique, l'électromagnétisme plus précisément, ces grandes lois générales, elles ont beaucoup changé dans leur interprétation. Maxwell en donnait une interprétation mécanique au début. Puis ensuite, on a abandonné cette interprétation, on en a cherché d'autres. Hertz disait que la théorie de Maxwell, c'est les équations de Maxwell, c'est rien d'autre. Ensuite est venue la physique quantique. Tout ça a beaucoup changé, vous voyez. Mais les équations de Maxwell sont toujours là. Et on ne peut pas s'en passer. Ce qui fait que nous pouvons communiquer avec nos auditeurs extérieurs, c'est bien le fait que les équations de Maxwell marchent, parce que sans ça, cette radio ne marcherait pas. Donc, il y a quelque chose, vous voyez.
On ne peut pas dire exactement ce que c'est, mais il y a quand même quelque chose, et quelque chose dont il me paraît très difficile de dire que ça émane uniquement de nous, quoi. Donc, l'attitude philosophique qui me paraît la plus simple, c'est de dire non, ça, ce n'est pas vrai de dire que tout émane de nous, comme semblent vouloir le dire les néo-kantiens. Mmh. Il y a, de temps en temps, il y a certaines choses qui n'émanent pas de nous, que nous savons, mais nous ne savons pas vraiment, vous voyez. Nous ne pouvons pas dire, il existe un champ électrique, il existe un champ magnétique, qui ont telle et telle propriété, et ça, c'est la réalité telle qu'elle est. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça à l'heure actuelle, compte tenu de la mécanique quantique, justement. Mais je pense quand même que les équations de Maxwell nous donnent une espèce de lueur.
Oui. Et dans le cas de la mécanique quantique, cette lueur qu'on a du réel, elle est liée à la non-localité dont vous parliez tout à l'heure, ces influences instantanées à distance qu'on retrouve dans certaines versions, c'est bien cela ?
Non, je dirais que ça, c'est le côté négatif de la fausse. C'est-à-dire que cette non-localité, c'est justement ce qui nous montre que les lueurs dont nous parlions ne sont que des lueurs, ne sont pas des connaissances. Mm-hmm. C'est ça. Mais il n'empêche que je considère, sans que ce soit une démonstration, n'est-ce pas, je considère que, quand même, ces lueurs ne sont pas complètement trompeuses, qu'il y a quelque chose derrière.
Et au nom de quoi on peut faire cette séparation entre les deux ?
Si je comprends bien, il y a un réel qu'on voit, il y a un autre réel qui
non,
nous échappe.
Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas, d'une part, un réel qu'on voit tel qu'il est vraiment, et d'autre part, d'autres choses qu'on n'atteint pas. Non, on n'atteint que les phénomènes. Et phénomène, ça veut dire apparence. Nous n'atteignons que les apparences.
Ce que nous appelons dans la vie quotidienne.
Mais derrière les apparences, nous devinons quelque chose. Imaginez que vous êtes en voiture dans une forêt et vous roulez et à un certain moment, il y a une échappée dans les bois et vous apercevez un petit château. Et vous continuez. Et vous ne l'avez pas vu, ce petit château. Vous l'avez vu, hein, entreaperçu. Mais vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas même dire exactement comment il est, combien de fenêtres il a, etc. Et c'est perdu. C'est une image, bien sûr. Mais c'est un petit peu ça que je veux dire quand je parle de réel voilé.
Et alors, cette approche philosophique, votre approche, comment a-t-elle été perçue et acceptée par les communautés à la fois physiciennes et philosophes ?
Oh, ben, mal. mal, mais les gens sont tolérants, disons. C'est-à-dire que personne ne m'a dit « Non, c'est faux pour telle et telle raison. Mmh. » Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce que on ne peut pas démontrer que c'est faux. Il ne pouvait pas non plus produire des solutions de remplacement qui auraient été plus satisfaisantes. Mmh. Donc, ils se sont tenus sur la réserve, disons.
Nous marquons une pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce Temps contre Temps.
Vous écoutez Canal Academy. Sdegnosa, recide andi in misericordia.
Nous retrouvons Priscille Lafitte.
Suite de cette conversation avec Bernard d'Espagna, pour essayer de comprendre votre théorie du réel voilé, Alexis ?
Oui, j'en étais resté sur la question de savoir s'il y a des interprétations réalistes qui ont pu être données, malgré les apparentes difficultés qui existent à donner une interprétation telle que... Enfin, réaliste, justement, de la mécanique quantique à la suite des expériences d'aspect, etc.
Oui, effectivement, les faux sont... plus subtil que je ne le disais il y a quelques instants, en ce sens qu'il existe quand même des interprétations réalistes, des interprétations ontologiquement interprétables, comme disait David Bohm. C'est justement Louis de Broglie d'abord et David Bohm ensuite qui ont proposé la plus intéressante, peut-être, de ces interprétations. Effectivement, la théorie de Louis de Broglie et David Bohm reproduit les prédictions expérimentales de la mécanique quantique, y compris les prédictions relatives aux expériences d'aspect, bien sûr. Mais ça n'est pas en contradiction avec le théorème de Bell, parce que cette théorie, est non locale. Elle est réaliste, mais elle est non locale. C'est-à-dire que, dans cette théorie, il existe des influences à distance qui ne décroissent pas avec la distance, c'est pas comme la gravitation ou la loi de Coulomb, etc. Ça ne décroît pas avec la distance, et ça fait que toutes les particules de l'univers interagissent fortement avec toutes les autres. Ce qui fait que, si vous avez un électron qui se balade librement dans l'espace interstellaire, ben, il ne se balade pas en ligne droite parce qu'il est influencé par tous les autres électrons, protons, etc. qui existent dans l'univers, si loin soit-il. Donc, vous voyez, c'est une théorie qui a le mérite d'être, comme je le disais, ontologiquement interprétable, elle satisfait le réaliste, mais le réaliste, pour ça, paie vraiment un très gros prix, puisqu'il ne peut plus du tout se représenter les choses telles qu'il voulait se les représenter. Il faut ajouter à ça que cette théorie est non-relativiste, et que si on veut passer à une théorie relativiste, comme il faut, une phase de faire, puisque la relativité est vérifiée par l'expérience, à ce moment-là, il faut tout changer. Et en particulier, alors que dans la théorie de Bohm, les éléments de réalité fondamentaux sont des particules, dans les nouvelles théories, ce ne sont plus des particules. Ce sont des champs, ce sont des composants de Fourier, des champs, ce sont des choses assez abstraites qui ne sont plus des particules. Donc, vous voyez, on a vraiment, les physiciens ont en général un sentiment de grande réserve, enfin plus que de la réserve, même le rejet vis-à-vis de cette théorie.
C'est pas seulement du conservatisme. C'est pas du conservatisme, ça a une plus de valeur que ça.
Oui, je crois, parce que je ne vois pas comment on pourrait
reformuler toute la physique contemporaine dans ces termes de la théorie de Bohm. Ce serait un travail énorme et probablement irréalisable. Et même s'il était réalisable, si vous voulez, c'est ériger un principe philosophique, à savoir le réalisme, en dogme, et vouloir contraindre toute la science à obéir à ce dogme, malgré toutes les... Donc, on peut si on veut, mais... non, c'est pas absurde. John Bell, même après la découverte de son théorème, a continué à croire au modèle de Bohr. Vous voyez, donc on peut pas dire que c'est absurde. Mais bon.
Pour revenir au concept de réel voilé, moi j'essaie de comprendre. si j'ai bien compris, vous dites aussi que la physique ne permet pas d'appréhender complètement, entièrement le réel. On ne voit que des phénomènes. Vous parlez aussi dans vos livres des arts au sens ARTS, hein, musique, poésie, même la religion, la mystique, qui permettent aussi de compléter cette appréhension du réel.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de lueur qu'on pourrait éventuellement avoir sur le réel, si on est optimiste, je veux dire. C'est ça. Ça n'est pas du tout quelque chose qui découle de ce qu'on sait. Mais si on est optimiste, on peut penser que les équations de Maxwell nous donnent une espèce de lueur vers le réel. Et de la même façon, on peut penser que, je ne sais pas, les œuvres de Mozart nous donnent une certaine appréhension de l'être, quoi, du réel en soi, du réel avec un grand R,
de l'être
la
avec
réalité
un grand
ultime. Si on est optimiste, vous voyez. Mais les grands admirateurs de Bach et de Mozart seraient tout à fait d'accord. Pour eux, Bach, Mozart, ça a quelque chose de divin. Et après tout, pourquoi pas, vous voyez.
Ça ne décrit rien, c'est pas une description.
Non, c'est pas une description, absolument pas. Non, mais c'est quand même une lueur, quoi. Une lueur n'est pas une description.
Et au nombre de ces domaines qui apportent des lueurs, vous insistez beaucoup sur la musique, la poésie, mais on voit moins apparaître quelque chose, par exemple, comme les arts plastiques. Or, votre père, Georges Espagna, était peintre.
Oui.
Et alors, c'est...
Ah,
vous mettez ça à part.
Vous avez dû mentionner la peinture, j'espère, en tout cas.
D'accord, donc c'est vraiment les arts en général.
Oui, les arts en général, d'accord. Et la littérature et la poésie.
Mm-hmm. Est-ce que vous-même vous écrivez?
Non. enfin, écrire, oui, j'écris des livres,
oui.
Bien sûr. Mais
vous écrivez de la poésie?
Écrire de la poésie, non. Quand j'avais 18 ans, j'écris quelques vers comme tout le monde, mais non. J'ai jamais fait vraiment d'efforts soutenus dans ce domaine. Je me contente d'être un amateur.
Il nous reste quelques toutes petites minutes. J'aimerais vous laisser la possibilité à vous, Bernard d'Espagna, de poser une question à Adrien et Alexis.
Ben, ma question serait, qu'est-ce qu'on pense de tout ça dans vos milieux, école normale, etc., et dans votre génération? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ces choses? Est-ce que vous sentez un certain intérêt pour ces choses? Ou est-ce que les vents sont orientés d'une part vers la science capable de produire des appareils et d'autre part vers une philosophie du genre des philosophes français contemporains qui sont très éloignés de tout ce que nous venons de considérer.
Alexis.
Pour le domaine de la philosophie, je crois que c'est ni l'une ni l'autre des hypothèses que vous avez évoquées. Je pense que il y a peu d'étudiants qui sont vraiment intéressés par la philosophie des sciences, mais que dans les autres, ils ne sont pas forcément non plus spécialement intéressés par la philosophie qu'on appelle française ou continentale quand on est à l'étranger, mais beaucoup plus par l'histoire de la philosophie. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, je pense la majorité, ne sont pas spécialement engagés pour défendre une thèse philosophique sur le monde ou sur le réel ou l'action, mais beaucoup plus engagé dans une entreprise de description de ce que les autres ont pensé de ces choses-là. Donc, en fait, il y a peu de gens qui se posent la question.
Oui, l'histoire de la philosophie.
Beaucoup plus, je pense.
Adrien ? Alors, moi, je vais répondre plutôt en ce qui concerne le domaine scientifique. Chez les étudiants scientifiques, ce que j'ai pu en voir, il y a, je pense, un grand intérêt pour les questions épistémologiques, une motivation vers les questions de philosophie des sciences, de philosophie de la connaissance, mais donc pas pour tout le monde, bien entendu, mais pour une grande minorité tout de même. Mais ce sont des matières qui ne sont pas forcément systématiquement proposées, et les gens spontanément ne vont pas forcément dans ces directions. C'est-à-dire, si on leur propose, ils sont assez demandeurs, assez preneurs. Par une tradition d'enseignement scientifique en France, ils vont pas aller les chercher par eux-mêmes.
Vous avez été professeur, monsieur d'Espagne. Qu'est-ce que vous en avez vu ?
Mon impression revoit un peu celle que je viens d'entendre. Quand j'enseignais la mécanique quantique à l'université, au début, je tentais de parler de ces problèmes-là parce que ça me paraissait intéressant. Mais je voyais que les étudiants n'étaient pas intéressés du tout. Ce qu'ils attendaient, c'est des équations. Et tant qu'ils n'avaient pas vu une équation au tableau, ils pensaient que c'était du baratin. Alors, j'ai pris un autre système. Je leur ai donné leur ration d'équations pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, je leur ai dit, maintenant, ceux qui se posent des questions sur savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça, eh bien, on peut se réunir ensemble et en parler. Et là, j'ai eu à peu près la moitié de l'amphi, deux ou trois années de suite. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions, des jeunes qui s'intéressent à ces questions-là, mais c'est pas l'ensemble, si vous voulez.
Merci beaucoup, monsieur d'Espagne, d'être venu aujourd'hui dans ce studio. Merci, Alexis, bienvenue. Merci, Adrien Barton. À la semaine prochaine pour un autre Temps contre Temps.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.